Pourquoi que tu me regardes comme ça ?
Des fois, cette émission me touche. Ah, j'aime bien le vivre à côté de toi, Mimi.
Et c'est sur l'autre radio ? Bon, on y est, 25 ans déjà et c'est pas rien. C'est l'âge où on croit qu'on a tout devant soi et qu'on commence à se dire qu'on a peut-être déjà laissé un truc derrière. 25 ans de chansons, de mots balancés au vent et vous le savez, moi je crois au fait que les mots, quand ils sont mis dans le bon ordre, au bon moment, eh bien ils ne s'effacent pas, ils collent, ils s'agrippent comme quelque chose qui refuse en fait de s'en aller. Et là, le bon moment dont je veux vous parler, c'est un festival avec bien sûr des artistes, des guitares et probablement des rêves un peu cabossés, mais toujours debout. Au milieu de tout ça, j'ai une question pour vous. Comment on fait pour continuer à chanter dans un monde qui parfois n'écoute plus ? Comment on fait pour glisser un peu de poésie dans le brouhaha ambiant ? Dites-moi quelle est votre réponse, puisque cette émission a l'ambition de poser les bonnes questions. Oui, donc vous l'avez compris, c'est la JT du local qui commence et vous allez voir notre invité aujourd'hui en a des réponses, pas forcément définitives d'ailleurs, mais des bouts de poésie, des éclats de vérité, puisque c'est ce que s'efforce de faire Jean Loury, directeur artistique du festival À Travers Champs à Cossé-le-Vivien, qui aura lieu du 11 au 16 mars. C'est bien notre entretien du jour et comme toutes les bonnes conversations se font toujours en bonne compagnie, je suis contente que tu sois avec moi Maxime. Est-ce que tu vas bien ?
Bonjour à tous, ça va super et toi Margot ?
Bah très bien, puisque l'on parle sport ensuite et même on se plonge au cœur du festival du journalisme sportif qui a eu lieu du 4 au 6 février dernier à Laval. C'est Aubin Madiot qui était sur place pour l'agité du local. Il nous y emmène en seconde partie d'émission. Je vous parle de bouts de poésie et d'éclats de vérité, c'est la promesse de chaque mardi dans cette émission, notamment grâce à la lecture de l'auditeur, mais aussi et surtout grâce à notre chroniqueur Donatien qui chaque semaine conclut en finesse cette émission. Voilà, amis auditeuristes, vous êtes bien sûr les bienvenus dans cette émission, on passe ce moment ensemble et l'entretien du jour est un cadeau et c'est parti. L'agité du local sur l'autre radio. Bonjour Jean Loury, vous êtes le directeur artistique du festival À Travers Champs qui propose cette année donc sa 25e édition du 11 au 16 mars. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et auditrices.
Alors le festival À Travers Champs, je le disais, existe depuis plus de 25 ans. Peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ce qu'est ce festival ? Comment est-ce qu'il a évolué depuis ses débuts ? Quels étaient peut-être ses objectifs initiaux et comment est-ce qu'ils ont peut-être changé, évolué au fil du temps ?
Alors ils ont effectivement bougé et évolué. On a lancé l'histoire en 1980 autour d'une association, l'Amicale Laïque, qui avait envie de proposer des spectacles plutôt de chansons françaises tout au début. Donc on a suivi notre petit bout de chemin comme ça pendant quelques années et puis au bout de 3-4 ans, on s'est dit mais pourquoi on ne ferait pas au printemps chansons françaises et en septembre-octobre, café-théâtre. Donc vous voyez, et ça a permis de faire naître le Festival des Embuscades en septembre-octobre, qui est un festival d'humour et de théâtre burlesque. Et puis pendant 20 ans, on a continué, sous la tutelle cette fois de l'Amicale Laïque, de continuer à faire de la programmation chanson française. Et au bout de 20 ans, on s'est dit, mais pourquoi on ne créerait pas un festival aussi chanson ? Et donc, en 2000, on a créé la première édition du festival À Travers Champs, qui était exclusivement consacré dans un premier temps à la chanson française. Et au fil du temps, il a évolué, on y a intégré, et ce sera le cas pour fêter ses 25 ans, le salon du livre, l'Embusca Livre, qui clôture ce festival le dimanche 16 mars. C'est environ 12 autrices et auteurs, illustrateurs qui seront présents en dédicace à la salle du FCC avec des stands très personnalisés où évidemment les visiteurs, l'entrée est gratuite, pourront découvrir ou rencontrer leurs auteurs. Et l'ensemble de ces artistes, auteurs, illustrateurs auront pour la plupart fait bénéficier des écoles de notre petite région d'ateliers, de rencontres, la médiathèque aussi. Donc vous voyez, il y a tout un travail qui est mené dans la première semaine qui précède le festival, dès le 11 mars. Ça, on va dire, c'est l'un des volets de ce festival. On y intègre un deuxième volet qui est un petit peu surprenant, puisqu'on accueille dans le cadre d'À travers champs un spectacle de rue qui va être une création. Ça va être le premier spectacle qui va être proposé. Ce sont des gens, des Belges, une compagnie belge, oui. Les Bonimenteurs, mmh. Et en relation avec le pôle culturel du Pays de Cran, puisqu'on travaille en partenariat. Ces gens-là sont venus plusieurs fois en résidence depuis un an et demi pour collecter auprès notamment de nos collégiens des textes. Et ce spectacle de rue qui s'appelle « Au coin de ma rue » sera proposé à la fois le samedi 15 mars à Cran et le dimanche devant la salle du FCC. Les comédiens vont interpeller nos spectateurs de passage. Et sur un gradin de 31 places, les gens, on va leur raconter des histoires, ce sera très interactif. Ça, ce sera donc la compagnie des Bonimenteurs pour Au coin de ma rue, qui sera proposée, on va dire, les 15 à Cran et 16 mars à Cossé-Louis-Vien.
Et puis bien évidemment, À travers champs ne serait pas un festival de chansons françaises s'il n'y avait pas de spectacle de chansons Jean.
Donc il y aura deux rendez-vous concerts, avec dans un premier temps, le vendredi 14 mars, le retour, ils étaient venus chez nous il y a 12 ans, Hélène Legros qui fera la première partie. Alors Legros, c'est le nom de son accordéon, cette jeune compositrice, autrice, comédienne, interprète, fera la première partie. Et en deuxième partie, on recevra l'Agapette, qui est un groupe qui en est à plus de 1500 concerts depuis 20 ans. Et ils fêteront un peu leurs 20 ans d'anniversaire chez nous, avec Hélène Legros, qu'ils avaient d'ailleurs rencontré en 2013 avec Cossé-Louis-Vien. Depuis, cette accordéoniste a intégré l'Agapette. Donc elle fera à la fois la première partie et jouera avec l'Agapette pour fêter ses 20 ans. Ça, ce vendredi 14 mars, on espère évidemment beaucoup de monde dans la salle du FCC. Et puis on clôturera les soirées concerts avec le lendemain, samedi 15 mars, donc toujours dans la salle du FCC, deux très belles propositions. En première partie, La Mine de Léo, qui avait gagné l'année dernière dans le cadre de la 24e édition du festival À travers champs. Nous avons organisé un plateau de quatre duos. Et la mine de Léo avait obtenu le prix du jury, et c'est elle qui viendra faire, mais cette fois en quatuor, la première partie. Et on n'est pas du tout mécontent d'accueillir, et ça, c'est la ville de Cossé-Louis-Vien, puisqu'on est en partenariat avec la municipalité de Cossé-Louis-Vien pour cette soirée, qui accueillera Christian Olivier. Et Christian Olivier, qui propose son propre projet, est aussi le leader des Têtes-Raides, les Têtes-Raides qui tournent depuis plus de 20 ans maintenant, et Christian Olivier sera un peu la tête d'affiche de cette 25e édition du festival À travers champs.
On peut dire, Jean, que ce qui compte dans cette programmation, c'est de mêler artistes reconnus et scènes émergentes. Ça a toujours été important pour vous.
Ça nous paraît tellement essentiel. Il y en a malheureusement de moins en moins de lieux de chansons, notamment, qui ouvrent des portes et qui ont encore un public et les moyens, parce que ça, c'est un autre aspect, de proposer des scènes à des jeunes artistes ou des artistes effectivement émergents, peu connus des grands médias, et de la télévision en particulier. C'est notre combat depuis 25 ans pour À travers champs, mais vous avez bien compris que l'histoire date depuis bien longtemps. Et moi, je ne remercierai jamais assez aussi les artisans et commerçants de Cossé-Louis-Vien qui nous aident pour ce projet-là, la municipalité et toute notre équipe de l'association Festival de l'Humour, puisque c'est elle qui porte ce projet-là.
On peut également souligner que vous avez comme exigence la qualité des textes et un côté militant dans ce festival.
Oui, ce qu'on conclut dans l'éditorial, je ne sais pas si vous l'avez lu, oui. Mais qui dit, c'est une phrase d'Albert Camus, qui dit que tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude. Je crois qu'on est en plein dedans en ce moment, quand la région des Pays de Loire a coupé les vivres à toute l'action culturelle des territoires. C'est dramatique. Alors, on est encore quelques Mohicans, heureusement, à ce combat. Et on est dans cette exigence. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la musique soit de qualité, que les textes, on puisse d'abord les comprendre, et que derrière ça, il y a des messages de vivre ensemble, de partage, de faire en sorte que la vie soit plus simple et meilleure pour des gens souvent en difficulté, parce que le quotidien des gens est pas simple. Donc, on a aussi sur des propositions financières d'accueil. Vous voyez, le Salon du Livre, par exemple, sera entièrement gratuit. aux gens qui viendront nous visiter, et on est sur des places pour les soirées du 14 et 15 qui restent très accessibles.
Vous évoquez justement dans l'éditorial la nécessité de se réinventer face aux évolutions de la chanson et de la culture. Quelles sont pour vous les pistes à explorer justement pour insuffler une dynamique et maintenir ce type d'événement?
Ce qu'il faut, c'est, je pense, faire très attention à ce qui est proposé maintenant. On fait du spectacle vivant, parfois avec énormément de matériel, avec énormément de machines. Je vais encore régulièrement dans les salles de spectacle. Et je vois que malheureusement, souvent la dimension technique, alors ne parlons pas peut-être de l'intelligence artificielle qui est en train aussi de gagner du terrain dans ces domaines-là, mais on devient tellement dépendant de la technologie que l'essence même de l'écriture, de la présence scénique, de la qualité musicale peut avoir tendance à disparaître. Donc soyons vigilants, c'est pour ça que ces propositions restent des gens qui sont des artisans artistes et qui, de leur propre écriture ou de leur propre doigté musical, nous proposent vraiment des choses de grande qualité.
On en a dit quelques mots tout à l'heure, mais on peut souligner l'importance des partenariats avec les collectivités locales.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a la chance, ici à Caussilbien, d'avoir une équipe de bénévoles qui depuis des dizaines d'années, porte le spectacle vivant au travers des deux grands projets que sont les nôtres, les embuscades de septembre-octobre. On fêtera la 40e, là, en septembre-octobre, enfin les 40 ans. Et puis à travers champs. Et surtout, le partenariat que l'on mène avec notre ville de Caussilbien. Et donc, j'en remercie bien évidemment la municipalité qui ont compris que il y a un très beau lieu avec cette salle du FCC, mais ce n'est pas une coquille vive, mais qu'ils la font vivre et qu'ils ont très vite compris qu'il fallait s'associer aussi à notre projet pour partager ensemble et se donner les moyens d'avoir des artistes de qualité. Et puis, le pôle culturel du Pays de Cran, qui défend aussi une culture rurale en proposant tout au long de l'année des spectacles très différents, très éclectiques. Et le partenariat que l'on mène, par exemple, pour l'accueil de cette compagnie belge, qui va nous proposer au coin de ma rue, qui va solliciter nos spectateurs, c'est toute cette dimension qu'on a la chance de pouvoir porter et partager ensemble.
Qu'est-ce que vous percevez, qu'est-ce que vous constatez de l'évolution des publics au fil des années? On parle de chansons à texte, est-ce qu'il y a un renouvellement des spectateurs, peut-être parmi les plus jeunes, pour ce type de proposition?
Je crois que la sensibilisation que l'on mène aussi dans les écoles, alors certes dans À travers champs c'est beaucoup plus des illustrateurs ou des auteurs qui vont dans les écoles, mais en septembre-octobre notamment lors des embuscades, on propose aussi de la chanson française, ce sera le cas encore pour la 40e, ça veut dire qu'ils ont les codes justement et via leurs enseignants. Et on voit qu'on a des jeunes qui viennent participer aussi à ces concerts-là. C'est vrai qu'ils sont quand même de plus en plus sensibilités. Je ne citerai pas le festival, évidemment, du mois d'août qui a lieu du côté de Château-Gontier, où là, il y a des têtes d'affiches énormes, mais ça aussi permet à un jeune public de venir découvrir certaines stars, enfin, ou gens très reconnus, mais ils ont l'envie aussi de venir découvrir. On a cette chance qu'on a fidélisé aussi un public relativement jeune. C'est vrai que de plus en plus, les concerts sont très anglophones et que c'est moins notre combat.
Quels sont les défis ou même les projets futurs, les rêves pour ce festival, pour le faire évoluer pour ces prochaines années?
Vous savez, je crois qu'on reste, nous, des artisans. L'évolution, c'est tout simplement de pouvoir continuer à le pérenniser. Je crois qu'il y a une volonté de l'équipe municipale et de notre équipe de maintenir ce projet. Et tant qu'on pourra rester associé avec la municipalité, avec le pôle du Pays de Cran, avec une équipe, je crois que le projet va... évidemment, il faut toujours avoir un public, mais que la qualité est au rendez-vous. Je pense que cette édition, quand on en fera le bilan, nous dira si effectivement les choses peuvent continuer d'évoluer. Mais il y a cette volonté chez nous de continuer, et on voit bien qu'il y a des lieux de résistance, c'est-à-dire que je pense au garage à Olivet qui fait des propositions intéressantes, mais pas que, le 6x4 et plein d'autres lieux. La chanson française globalement a tendance à disparaître des programmations des centres culturels, donc gardons ce créneau et continuons notre combat. Je suis persuadé qu'elle peut encore exister.
On a mentionné l'importance des bénévoles, est-ce qu'il est encore temps de vous rejoindre pour cette prochaine édition?
On cherche toujours globalement des bénévoles parce que la vie fait que parfois des bénévoles disparaissent tout simplement, arrivent au bout du chemin. le bénévolat globalement dans la vie associative, probablement lié au Covid, au changement aussi de méthode et de fonctionnement de beaucoup de monde, fait qu'on a un petit peu moins de monde, c'est vrai, mais que les portes sont ouvertes et que si des jeunes ou moins jeunes ont envie de nous rejoindre, ils seront bien évidemment les bienvenus.
On peut retrouver donc l'ensemble de la programmation dont on vient de parler sur le site internet des Embuscades. Donc on invite nos auditeurs à se rendre donc au festival à Travers Champs. Ça a lieu donc du 11 au 16 mars 2025. Merci beaucoup Jean d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Eh bien, merci à vous et puis bienvenue à vos auditrices et auditeurs sur notre 25e édition.
Merci. L'agité du local sur l'autre radio. Dans quelques instants, on profitera ensemble de la lecture de l'auditeur. Mais avant, il y a des chansons qui voyagent dans le temps, qui portent des morceaux de vie, qui ne disent pas tout, mais en racontent tellement. Celle-ci a une histoire bien à elle, qui résonne à la fois loin et tout près. C'est la scène locale, on écoute Zeldez et son titre vivement.
Quelques gouttes sur le front, fragments d'embrun d'un soleil sourd, le sablier touche le fond. Désert sans fin pris à rebours, quelques doutes en permission, trêve de pensée, raison se mue, alors qu'au loin la nuit fond, les yeux froissés guettent un murmure, quel que soit le tourbillon, quel qu'il soit on change de saison. Soupçonne-t-elle ou non que dans ses draps rêve une merveille, quel que soit le tourbillon, quel qu'il soit, on change de saison.
C'est entre le billet d'humeur, le journal intime et le SOS. Aujourd'hui, vous écoutez l'agité du local et c'est le moment de la lecture de l'auditeur.
Dans ma vie, le centre du monde, c'est l'amour.
Mon record, c'est Les jeunes filles de Monterland que j'ai lu plus de 100 fois.
J'ai fait semblant plein de fois de discuter avec des gens en disant « Ouais, putain, j'ai quand même ça, c'est... » Mais en fait, j'ai pas...
Il y a des pages entières qui me hantent, des déclarations d'amour dont je me souviendrai toujours.
On n'a pas trouvé un nom tout de suite à cette séquence. Ce moment est simple et beau, C'est la lecture de l'auditeur.
Vous écoutez l'agité du local.
Mardi 11 février, hiver jour 52, ressenti 128. Ça commence à faire long quand même. Tiens, regardez, je suis actuellement en train d'écrire ce texte avec des moufles. Je peux vous assurer que c'est pas facile à déchiffrer, encore moins à lire en claquant des dents. Pardon, c'est pas très feel good comme message, mais je galère un peu à remplir les stocks de vitamine D en ce moment. C'est marrant d'ailleurs que ce soit précisément les vitamines D, c'est aussi la note du bilan énergétique de mon appart. La facture d'électricité est déjà bien explosée, on va continuer à puiser dans le stock de soupe. Ou alors D, c'est pour dépression. Ouais, non, c'est vraiment pas feel good du tout ce message. Bon, que dire pour voir le bon côté des choses? Encore 40 jours et c'est le printemps? Eh mais attendez, même moins au fait, il y a moins de jours en février, non? Allez, courage, le soleil reviendra bientôt. Vivement cet été, j'ai hâte de me plaindre de la chaleur et de réclamer le retour de l'hiver.
Le journalisme sportif, c'est bien plus que des chronos et des scores. C'est raconter la passion, la sueur, les victoires et parfois les défaites. Laval a accueilli du 4 au 6 février la deuxième édition de son festival dédié à cette discipline unique. Et pour nous, c'est Aubin Madio qui s'est glissé dans les coulisses, carnet en main et micro au point. Alors qu'est-ce qu'il a vu, entendu, ressenti? On découvre tout de suite dans son reportage.
L'idée, c'est que le grand public rencontre les journalistes qui leur font vivre les belles émotions du sport. Je me suis rendu compte, c'est tout simple, en cherchant sur les moteurs de recherche, ce moment n'existait pas. Donc je me suis dit, on va le faire à Laval, on va créer cette rencontre avec ceux qui nous ont fait vibrer. On sait très bien où on était pour la finale de la Coupe du Monde de 2022, on sait très bien où on était quand on a vu les images de Léon Marchand. C'est ces moments-là, et derrière ces moments magnifiques, il y a des commentateurs, il y a des journalistes de presse écrite. C'était cette rencontre générale que je voulais organiser à Laval.
Ces mots, ce sont ceux de Jean-Christophe Boyer, ancien maire de Laval, coprésident de la seconde édition du Festival de journalisme sportif organisé à Laval du 4 au 6 février 2025, une deuxième édition rééditée donc en Mayenne, une volonté réaffirmée par Vincent Duluc, journaliste au journal L'Équipe, président de l'Union des journalistes de sport français et coprésident du festival, contacté au tout départ par l'idée de ce projet.
En fait, l'idée est venue de Laval, elle est venue de Jean-Christophe Boyer, l'ancien maire de Laval, qui m'a contacté un jour en me disant « voilà, j'ai une idée de faire un festival, qu'est-ce que vous en pensez ? » Tout le monde à Laval est rentré un peu dans cette affaire. Donc aujourd'hui, voilà, il est implanté à Laval et il n'en bougera plus. Ce qu'on veut effectivement, c'est raconter plus d'histoires, les rencontrer encore mieux, les raconter pour encore plus de monde. Et par rapport à l'an passé, il y a un changement fondamental. C'est que cette fois, on montre des vidéos, on montre les choses et c'est important. L'an passé, on n'avait pas eu le temps de s'organiser assez pour ça. Et là, cette année, on ne va pas seulement se débattre de l'émotion, on va s'y montrer l'émotion et ensuite débattre de l'émotion.
Débattre de l'émotion, une thématique embellie par la venue de grandes personnalités du journalisme et paysage médiatique sportif français, tels que Michel Denisot, ancien président du PSG, présentateur et commentateur de renom sur Canal+, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France et ancien journaliste, ou encore Frédéric Vasseur, team principal et directeur de l'équipe de F1 de la Scuderia Ferrari. Louison, bénévole pour le festival et passionné de sport, semble conquis par ses conférences.
Ouais, c'est ça. Bah, j'ai toujours été fan de sport. Je regarde le sport depuis plus jeune. J'en fais aussi depuis plus jeune. Et puis bah, le festival, c'est un truc aussi intéressant. On voit de bonnes personnes. J'aime bien Michel Denisot. Et franchement, ça a été passionnant à regarder. Avec pas mal d'anecdotes sur sa présidence, mais aussi en tant que journaliste, ça a été pas mal à regarder.
Le territoire mayennais sait séduire des festivals aux rayonnements nationaux en accueillant des locaux, mais pas que. Hugo, élève en licence professionnelle journalisme de sport à Lille, s'est rendu en Mayenne avec sa classe pour assister aux conférences. Une évidence pour ses étudiants souhaitant devenir journaliste plus tard.
Mais beaucoup d'événements à Laval. J'avais eu la chance il y a 2 ans de venir au Laval Virtual Days déjà. J'avais bien aimé la ville. Moi, je viens d'une ville pareille, Besançon, qui est à peine plus grande, mais ça reste une ville moyenne aussi. Donc j'ai beaucoup d'attachement pour ces villes moyennes et pour ce qu'elles font. Et le festival du journalisme sportif, il y avait eu des très bons retours l'an passé. Donc c'est vrai que quand il y a eu l'occasion d'y retourner, on n'a pas trop hésité avec les gens de la promo, quoi.
Mais alors, pourquoi le choix de Laval pour la tenue de ce festival? Jean-Christophe Boyer a la réponse à notre question.
Mais c'est aussi très pratique. On est à 1h15 de Paris. Un grand nombre de journalistes viennent de province, transitent par Paris ou vivent à Paris. Et donc voilà, c'est aussi la simplicité. Ce qu'on veut en le faisant en semaine, c'est se dire que finalement, ils vont pouvoir faire un petit saut, rester un peu plus longtemps, mais qu'on puisse s'adapter à leur emploi du temps.
Table ronde, projection et masterclass de grands invités. Ce sont au total 5000 billets pour 14 événements qui ont été vendus. Un record dû à la gratuité une nouvelle fois de ces places, un argument non négligeable selon Vincent Duluc.
Oui, oui, on voulait vraiment que ça soit gratuit, on voulait attirer le maximum les gens, on voulait pas... Voilà, c'est un festival qui est organisé uniquement par des bénévoles, où personne ne cherche à gagner de l'argent, donc il n'était pas question qu'on dans la mesure où les partenaires sont là, il n'était pas question qu'on demande au public de payer quelque chose qui était payé par nos partenaires. Donc au contraire, on veut que ça soit gratuit, on veut séduire le plus de monde possible, on veut être ouvert au plus de public le plus large possible, et pour l'instant c'est assez réussi.
L'objectif principal étant la rencontre des passionnés de sport avec ceux qui leur font vivre, Bertrand Latour, journaliste pour Canal+, et participant à la table ronde consacrée aux notes que donnent les journalistes aux sportifs, est ravi d'avoir pu échanger avec tous les acteurs, spectateurs compris, lors de cette conférence.
Ouais, c'est toujours intéressant d'avoir le regard notamment de Laurent Fournier, qui est un ancien joueur, entraîneur aussi, de voir la perception des gens que nous, on note, et comment il peut apprécier ça. Après, c'est aussi intéressant de comparer par rapport aux différents titres. Chacun a des difficultés, en tout cas particulières, propres à son titre, parce qu'à l'heure du bouclage, au fait de faire de la télé, il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte. Donc c'est intéressant de se confronter, puis de se nourrir un peu de comment voient le métier nos confrères ou nos consoeurs. C'est agréable de parler à beaucoup de gens, de se dire que voilà, chacun fait l'effort de venir nous écouter, nous entendre. On a un métier qui est parfois un peu décrié, les journalistes, même si le journaliste de sport est peut-être un peu différent d'autres disciplines. Mais voilà, c'est bien de pouvoir discuter avec les gens qui soit nous lisent, soit nous regardent. Et tout le monde est sympathique, donc c'est bien. C'est un moment d'échange et deux, où on peut un peu se poser pour discuter.
Que serait le journalisme de sport sans les sportifs? Ils étaient eux aussi invités lors de ce festival. Parmi ces sportifs et sportives, Justine Métro, skippeuse et finisseuse du dernier Vendée Globe, est arrivée 10 jours avant le début du festival. Heureuse d'avoir pu venir, les spectateurs ont pu s'immerger des relations médiatiques que confronte un sportif ou une sportive avant une course.
Je pense que mon rapport, il est bon. Après, c'est vrai que quand on est un athlète, voilà, ça nous arrive de voir tout plein de journalistes différents. Et puis, voilà, il y a des personnes, je pense, avec qui on a le feeling plus ou moins, et des personnes qu'on est content de recroiser, voilà, quand ça se passe bien ou quand on a l'impression. C'est vrai que typiquement avant un départ de Vendée Globe, pour donner l'exemple, on est très sollicité et on peut avoir l'impression qu'il y a des fois de la redondance. Enfin, ça dépend vraiment de avec qui on discute, mais globalement ça se passe quand même bien.
Au cours de ce festival, 12 prix ont été remis à des journalistes, sportifs ou dirigeants pour leur action dans ce milieu, on le sait désormais, très fragile qui est celui du sport. Une réussite donc pour cette édition auquel beaucoup espèrent une troisième, ce à laquelle Vincent Duluc nous répond.
Il y aura une troisième édition à Laval, il y aura une quatrième édition à Laval, il y aura une cinquième édition à Laval. On va en faire le plus longtemps possible et ça sera toujours à Laval.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Maintenant, place à Donatien. Vous savez, Donatien, c'est un peu notre magicien des mots. Il ne se contente pas de raconter des histoires. Il nous les fait traverser avec lui comme si on y était. Comme si on y était. Fermez les yeux, tendez l'oreille. En tout cas, laissez-vous porter, Donatien. C'est à toi.
Ah, les petits chevaux, cette rage enfantine quand le dé vous dégage. Retour à l'écurie, retour à la case de départ au Monopoly ou au jeu de loi. Et dans la vie, ces ruptures qui vous condamnent à tout recommencer. Retour à la ligne, retour en haut de la page blanche. À moins que l'on ait pensé à faire une sauvegarde, les mots et les souvenirs sont effacés. Mais cette semaine, c'est la Saint-Valentin. Alors, on va éviter de parler de rupture. Pour l'occasion, Donatien a préparé un dîner aux chandelles. Il a écrit pour Ariane un sonnet en adoptant le boustrophédon, qui symbolise si bien la continuité de leur liaison. Donatien a donc tracé ses vers comme un irréprochable sillon de terre épaisse et grasse, brunissant le pré bordé de haies touffues, d'où s'envolent les mésanges, les verdiers et les linottes. Ce ne sont pas seulement les nuées de passereaux ou le ballet des mouettes gourmandes qui riment le poème. Ce sont ces sillons bruns, impeccablement tracés, parfaitement parallèles. Donatien regarde ces sillons comme les traits d'une portée musicale ou comme les lignes de son cahier d'écriture, où il dépose à l'encre bleue ses émotions, ses désirs et aussi mille perceptions partagée avec Ariane. Ce soir, pour ne pas rompre la beauté de la description, il a donc utilisé le boustrophédon, ce mode d'écriture pratiqué par les anciens, très anciens, et qui fut abandonné au IVe siècle avant Jésus-Christ. Pour ce mode d'écriture, le sens alterne d'une ligne à l'autre, de gauche à droite, puis de droite à gauche, à l'orientale, à la manière d'un comptois creusant les sillons dans un champ. Pas de rupture en fin de vers, une continuité de la proposition, de la phrase, comme une juxtaposition, une proximité douce et linéaire, sans cette suspension du regard qui se perd au bout de la ligne. Avec le boustrophédon, l'écriture retourne à la terre, à ses sillons parallèlement tracés. Ariane parcourt le poème comme elle suivrait des yeux un couple dansant avec grâce une valse ou un tango. Sur le sol, les pas s'en vont, s'en retournent et reviennent, glissant sur le parquet ciré, traçant harmonieusement des signes, des boucles arrondies, étirant le temps, calant les mouvements sur l'archet qui caresse les cordes d'un violon, aussi sûrement que le soc de la charrue préparait la future moisson en traçant à l'infini un interminable sillon.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
Touch me with your naked hand.
touch me with your glove, dance me to the end of love, dance me to the end of love, dance me to the end of love.
T'as compris ce que c'était le Boustron Fédon ou pas? Merde. Bah, c'est vachement poétique, si tu veux, c'est-à-dire que t'as une écriture de droite, de gauche à droite et de droite à gauche, comme, si tu veux, imagine le cultivateur hein, qui fait son champ.
Ah oui,
tu vois,
ah d'accord.
Ouais. Il va au bout du champ, il fait, tu vois, c'est un sillon, il n'y a aucun arrêt, tu comprends?
C'était Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen, vous l'avez reconnu. L'Agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jean Louris d'avoir été à notre micro. Merci à Aubin Madio, à Donatien et bien sûr merci à toi Maxime. Qu'est-ce qui nous attend dans la suite de la programmation ?
Ce soir à 19h, nous retrouvons l'émission À la jeunesse, les micros, qui se pose la question de comment réinventer nos héritages.
Ensuite, ça continue à 21h.
La soirée continue comme tous les mardis à 21h avec Frères de chaussures. Cette émission nous fera rentrer dans le monde du rap français proposé par Fatshu.
Merci Maxime. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du local. L'entretien sera avec Jean-Michel Le Boulanger, conférencier et auteur de l'ouvrage Éloge de la culture en temps de crise. D'ici là, laissez la maison se remplir des rires et des idées farfelues des enfants en vacances. C'est le chaos, oui, mais le genre de chaos qui ne fait pas de mal, au contraire. Enfin, qu'est-ce que j'en sais ? Faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, faites-le bien.
Oh, c'est déjà la fin, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.